Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h43, Elisabeth Martichoux, vous recevez aujourd'hui dans notre studio le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
Bonjour Jean-Yves Le Drian.
Bonjour.
Vous exprimez extrêmement rarement, donc merci d'avoir choisi RTL, au lendemain de la fin de la semaine des ambassadeurs que vous avez organisé et présidé. Vous étiez avant cela en Irak le week-end dernier pour traiter entre autres de la question épineuse des djihadistes français. À mesure que Daesh perd du terrain, et ça a été encore le cas hier d'ailleurs, on en parlera peut-être, certains sont ou peuvent être arrêtés. Ils seront renvoyés en France ou jugés sur place ?
Lorsque des combattants français sont arrêtés par des forces irakiennes, c'est qu'ils ont combattu contre l'Irak. Les combattants français sont des combattants qui font partie de Daesh, qui font partie de l'armée terroriste de Daesh, comme les autres. Pas plus, pas moins. Et à partir du moment où les forces irakiennes arrêtent des combattants français, ils doivent être jugés par la justice irakienne. Puisqu'ils ont agressé, l'Irak, ils ont combattu. Quand on va à Mossoul, ce n'est pas pour faire du tourisme. Donc, ils doivent être jugés par les éléments de justice irakien, avec néanmoins le suivi du consulat de France, qui le fait aujourd'hui pour quelques cas qui sont identifiés.
On parle de 600 à 700 djihadistes français en Irak. Combien sont mineurs parmi eux ?
Ah non, dans les 600, 700 dont on parle, ce sont des combattants.
Des combattants ?
Avec des hommes et des femmes.
Oui.
Et il peut y avoir des enfants, mais ces enfants ne sont pas soumis pénalement.
Alors, en plus, il y a les enfants qui sont mineurs. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces enfants ?
Il y en a très peu qui sont aujourd'hui retenus d'une certaine manière. Très peu. Si le cas intervient, ce qui est effectivement aujourd'hui le cas pour trois ou quatre d'entre eux, en très bas âge, ils relèvent de la Convention internationale des droits de l'enfant, et donc ils ne sont pas soumis, eux, à la justice irakienne. Et dans ce cas-là, notre action, c'est au cas par cas, pour essayer de les faire revenir et de les placer dans des établissements spécialisés.
Selon le Canard enchaîné,
c'est très faible.
C'est très faible. C'est quelques cas qu'ils reviennent.
Aujourd'hui,
et après,
ça peut arriver, y compris sur les combattants, mais ça peut être aussi des combattantes.
Et des combattantes qui sont retenues sur place, les combattantes. Il y a des femmes.
Il y a aujourd'hui des combattants français, cas en particulier d'une combattante qui a été arrêtée, mais c'était une combattante. Donc elle va attendre.
Et elle a des enfants, elle.
Et donc il faut traiter le cas de ces enfants, nous y employons.
Et vous les faites revenir et vous les confierez
à des établissements spécialisés.
Français.
Oui,
selon le Canard enchaîné,
ça ne concerne que les enfants.
Absolument. Selon le Canard enchaîné, pardon, de ce mercredi, vous seriez très optimiste sur une fin prochaine des combats de la guerre en Irak, contrairement à l'état d'esprit des militaires.
Bon, mais non, Daesh est en train d'être battu. Daesh est en train d'être battu en Irak. J'en viens. J'ai pu le constater. Daesh est en train d'être battu parce que Mossoul est tombé. Daesh est en train d'être battu en Irak parce que à Tal Afar, qui était un autre lieu de leur regroupement, la ville est tombée, parce que les forces irakiennes et les forces kurdes sont en train de reprendre l'ensemble du terrain. Il reste encore quelques poches. Nous sommes en Irak dans la préparation de l'après-Daesh. Et si je m'y suis rendu, c'est parce qu'aujourd'hui, les thèmes dont nous parlons, c'est réconciliation, stabilité, reconstruction. Mm. Et nous en parlons avec le Premier ministre irakien, M. Al-Abadi, parce qu'il va y avoir des élections en Irak. Et il importe maintenant que Daesh est éliminé, est en train d'être éliminé, de faire en sorte qu'en Irak, on retrouve une certaine sérénité qui passe par le respect des différentes communautés qui font partie de l'ensemble irakien. Et je crois que c'est la position du Premier ministre irakien, que nous soutenons dans cette démarche, mais il importe que la communauté internationale soit au rendez-vous, et en particulier au rendez-vous de la reconstruction, au rendez-vous humanitaire, au rendez-vous des réfugiés, parce que si nous ne le faisons pas, alors il peut y avoir d'autres résurgences, d'autres formes de terrorisme. Ce n'est pas la première fois en Irak, donc c'est une occasion extraordinaire, exceptionnel, qu'il ne faut pas rater.
La Syrie, il faut construire la paix avec Bachar el-Assad ?
Non, on ne peut pas construire la paix avec Bachar el-Assad.
Il est au pouvoir, contrairement à la doctrine française que vous ne partagiez pas, je crois.
La différence et entre l'Irak que je viens d'expliquer et la Syrie, en Syrie aussi, Daesh va être battu.
État islamique.
C'est plus long, mais nous sommes dans le cheminement de cette victoire contre ces forces terroristes. C'est le cas en particulier en ce moment à Raqqa, où progressivement, celles qu'on appelle les forces démocratiques syriennes, les FDS, avec le soutien de la coalition, avec notre soutien, sont en train de reprendre la ville et l'environnement de la ville. Il reste encore des poches, hein, ce n'est pas fini. Mais à terme, alors, je ne vais pas fixer de date, on ne peut jamais fixer de date dans des combats. C'est d'ici la fin de l'année, dans quelques mois, au printemps. En tout cas, Daesh sera éliminé. Et alors en Syrie, alors qu'il y avait deux guerres, une guerre contre Daesh et une guerre, civile. Maintenant, il n'y aura plus qu'une guerre. Et donc, la question politique, désormais, se pose.
Oui, est-ce qu'on va devoir, je repose ma question, il dit non, mais est-ce qu'on va devoir admettre que l'après-guerre, la réinstauration de la paix se fasse avec Bachar el-Assad, comme on a dû admettre, finalement, que la guerre se poursuive avec lui, au pouvoir ?
La différence de situation, c'est que nous serons désormais face à un seul conflit. Et donc on ne pourra plus argumenter sur qui est qui et comment est-ce qu'on fait pour combattre l'ennemi principal, qui était notre ennemi, qui était Daesh. Parce que c'est Daesh qui nous a attaqué directement sur notre sol. Comment est-ce que l'on peut mener la transition politique ? C'est ça la question qui est posée.
Mais la question qui est posée, c'est
Le président de la République a fixé d'abord un certain nombre de lignes rouges autour desquelles doivent se retrouver tous ceux qui veulent trouver une solution politique, en particulier les grandes puissances. Je pense à l'interdiction des armes chimiques, je pense à la nécessité de faire en sorte que l'aide humanitaire arrive pour toutes les populations civiles, je pense à la nécessité du cessez-le-feu dans toutes les zones et à la nécessité de lutter contre toutes les formes de terrorisme interne. Parce qu'il n'y a pas Daesh.
Si ces lignes rouges sont écartées.
Ceux qui sont d'accord avec ça. Je pense à la fois aux pays de la région, mais je pense aussi aux puissances du Conseil de sécurité, aux membres permanents du Conseil de sécurité. Ceux qui sont d'accord avec ça doivent se retrouver, doivent se regrouper pour proposer qu'un groupe de contact, ce qu'on appelle un groupe de contact en termes diplomatiques, c'est-à-dire les pays qui veulent bien avancer dans cette direction, se retrouvent et puissent imposer une transition politique qui passera par une nouvelle constitution et par des élections. C'est ça le sujet. À partir de ce moment, c'est ce que nous voulons faire maintenant, avant même que l'on dise il faut que Bachar s'en aille. On fait ça indépendamment, parce que si on attend que les Syriens se mettent d'accord entre eux, on va attendre très longtemps et il y aura encore des milliers de morts.
Pour être clair, qui peut faire partir Bachar dans le cadre du processus que vous dites, ce sont les puissances, mais c'est surtout les Russes.
Ce sont les puissances, ce sont les membres du Conseil de sécurité, qui est regroupé avec les pays majeurs de la région, qui trouve une voie qui doit s'imposer aux acteurs syriens. C'est le moment de le faire. C'était très difficile de le faire avant, puisqu'il y avait ces deux combats en même temps. Aujourd'hui, il y a une clarté, et donc il faut aboutir à cette solution. Je m'y emploie, c'est le président de la République qui a souhaité que je fasse les démarches nécessaires en ce sens. Au moment de l'Assemblée générale des Nations unies qui va se tenir dans 10 jours, la question sera abordée avec les grandes puissances.
Mais ce que vous me dites,
c'est-à-dire aussi avec les Russes.
Ce que vous dites, c'est que la doctrine française, puisque c'est vous qui la défendez, vous voulez jouer un rôle, la doctrine française, c'est que Bachar el-Assad ne soit plus, une fois tout ce processus...
Il ne peut pas être la solution.
Quelle est la solution pour le faire partir?
La solution, c'est de trouver, avec l'ensemble des acteurs dont je viens de parler, un calendrier de transition politique qui permettra d'aboutir à une nouvelle constitution et à nouvelles élections qui permettront d'assurer la transition. Et cette transition, elle ne peut pas se faire avec Bachar el-Assad, qui a assassiné une partie de son peuple et qui a amené plusieurs millions de Syriens à quitter son territoire. On ne voit pas comment on va dire à ces Syriens-là, vous allez revenir, mais c'est toujours Bachar.
Va-t-on rouvrir notre ambassade à Damas ?
Ce n'est pas l'ordre du jour. Ce
n'est pas du tout une option sur la table.
Ce n'est pas le sujet principal.
Faut-il avoir peur de la Corée du Nord, puissance nucléaire qui envoie des missiles survoler le Japon ?
Oui. Là, la situation est très grave et on en parle, je trouve, assez peu. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette partie du monde ? Ou d'une manière générale, le XXe siècle a apporté à la sécurité mondiale deux éléments importants, après toutes les guerres. Le premier élément, c'est l'interdiction de l'usage de l'arme chimique et de l'arme biologique pour tout le monde. Et deuxièmement, la non-prolifération du nucléaire. Ça veut dire, ceux qui ont l'arme nucléaire, ok, vous l'avez, mais vous allez commencer à descendre. Mais ceux qui ne l'ont pas, il ne faut pas l'avoir parce que la prolifération, c'est un danger pour l'ensemble de la sécurité du monde. Et aujourd'hui, on voit l'Iran qui était susceptible de d'accéder à l'arme nucléaire, qui a signé un accord important sur lequel la France, Laurent Fabius en particulier, s'est beaucoup battu, et qui évite cette dérive, cette prolifération. Et on voit une Corée du Nord qui se fixe comme objectif d'avoir demain, sans doute après-demain, à la fois l'arme nucléaire, mais aussi les missiles permettant de transporter l'arme nucléaire. Ils ne l'ont pas encore, mais ils font des essais en permanence pour dire « attention, ça va venir ». Et ça, c'est insupportable.
Ils l'ont presque.
Parce que, pas tout à fait, mais dans quelques mois, cela sera une réalité. Et à ce moment-là, lorsque la Corée du Nord aura les moyens de toucher par l'arme nucléaire les États-Unis, voire même l'Europe, en tout cas au moins le Japon et la Chine, alors la situation sera explosive. C'est pourquoi il faut anticiper. Il y a une résolution des Nations Unies que la France a votée pour mettre en place des sanctions à l'égard de la Corée du Nord. Il faut que la Corée du Nord retrouve le chemin de la négociation. Je me suis entretenu hier avec mon collègue chinois sur ce point. La Chine est aussi inquiète.
La Chine est un pays clé.
Le pays clé, il faut qu'elle puisse être... si je peux prendre un terme militaire, à la manœuvre diplomatique pour faire en sorte que...
Elle est ambiguë, la Chine ?
Elle est à la fois inquiète, elle a voté les sanctions, elle est le partenaire principal. Le ministre chinois m'a indiqué hier qu'il allait vraiment faire en sorte que les sanctions soient respectées. Et si les sanctions récentes sont respectées, ça veut dire que la Corée du Nord pourra difficilement exporter. Mais il faut trouver les voies d'une négociation, et en particulier avec l'appui des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, dont la Chine et la Russie.
Emmanuel Macron a des rêves de grandeur. Il vise une présidence héroïque. Il ambitionne pour la France qu'elle permette, je cite, le point de cette semaine à l'Europe de devenir le leader du monde libre. Vous appréciez ce lyrisme ? Vous appréciez le style Macron ?
Moi, je me sens bien avec cet homme-là, si je peux me permettre cette expression. Il a une stratégie, il a une vision, il a aussi beaucoup de détermination. Et ce qui me frappe le plus dans mes déplacements... c'est que cette élection un peu inattendue, ce tsunami politique que nous avons vécu, et l'apparition de ce leader jeune comme président de la République, a un effet considérable pour l'image de la France dans le monde. Et donc, du coup, ça lui permet une capacité d'initiative très forte, qu'il a pu mettre en œuvre récemment, lorsque lundi dernier, il réunit autour de lui à la fois la chancelière, le président... italien, espagnol et des présidents africains pour poser la question des migrations, il le fait sur son image et sur la force de ce qu'il représente. Donc la donne a changé. Et ce qui lui donnera d'autant plus de force de faire en sorte que l'Europe puisse réfléchir à sa refondation.
L'Europe qui, effectivement, est beaucoup plus présente comme enjeu politique dans le discours d'Emmanuel Macron précédemment. Jean-Yves Le Drian, vous êtes aussi heureux au Quai d'Orsay qu'à la Défense ?
Je pense que je vais l'être, oui. Aujourd'hui, je prends mes marques, mais je sors de... ce qu'on appelle la semaine des ambassadeurs, où j'ai réuni depuis le début de la semaine tous nos ambassadeurs dans le monde. C'est une force et un atout considérable.
Je pense que je vais l'être, ce n'est pas un oui massif.
On ne l'est que lorsqu'on a fini. Moi, j'ai passé 5 ans à la Défense. Lorsque vous m'auriez interrogé au bout de 3 mois, je vous aurais dit, je pense que je vais l'être. Mais à la fin, je dis, oui, je l'ai été. Je pense aussi que ce sera le cas au Quai d'Orsay. Parce que c'est une aventure formidable et j'ai grand plaisir à servir la France dans cette mission.
Un tout petit mot encore, vous connaissez très bien les militaires, on le sait, qui ont beaucoup apprécié votre tutelle. Est-ce que le conflit entre le président et le général de Villiers a été une tempête dans un verre d'eau ?
Il n'y a pas de conflit.
Ah, aussi, il y a une démission tapageuse.
Non, il ne peut pas y avoir de conflit. Il y a un chef des armées qui est le président de la République, qui fixe la ligne. Si on n'est pas d'accord avec lui, on en tire des conséquences.
Il n'a pas été autoritariste, si vous me permettez de
parler. Je reste très arc-bouté sur la hiérarchie qui existe au sein de l'État et sur la force du pouvoir du président de la République. C'est comme ça.
Jean-Yves Le Drian, ministre... presque complètement dans ses marques, au Quai d'Orsay, ministre des Affaires étrangères, de l'Europe, du tourisme, du commerce extérieur, était notre invité ce matin. Merci beaucoup, Jean-Yves Le Drian.
Merci. Merci à tous les deux. L'entretien est bien entendu à retrouver sur le site rtl.fr.